Alors, sans plus attendre, je passe la parole à notre conférencier, le professeur Guilhem, historien de renommée nationale et internationale, que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, connaissent, et qui va nous parler de la conquête néolithique de la Méditerranée. Monsieur Guilhem.
Merci. Alors, je voudrais d'abord. Est-ce qu'on m'entend là ? C'est bon ?
Oui.
Alors, je remercie l'Académie des sciences, inscription et belles-lettres de Toulouse pour.
Plus près. C'est bon ?
Bon. Je remercie donc l'Académie des sciences, inscription et belles-lettres de Toulouse pour son invitation à vous traiter du sujet la conquête néolithique de la Méditerranée. Je me propose en effet un double objectif dans cette conférence. D'abord, vous montrer par l'image essentiellement comment se sont constituées les premières populations d'agriculteurs et comment elles ont essaimé à travers l'espace méditerranéen. Et puis, peut-être plus rapidement, vous montrer comment ces sociétés, ces premières sociétés d'agriculteurs ont évolué et au cours de phases plus récentes et par la même vous montrer donc comment elles sont parfois entrées en contact avec d'autres civilisations plus avancées qu'elles, par proto-historiques et historiques. Alors on va d'abord résumer, voilà, vous avez la Méditerranée, vous voyez donc l'espace est vaste bien entendu, et vous allez voir que tout va se jouer dans un premier temps au Proche-Orient, c'est-à-dire dans cette zone. C'est là que vont émerger les premières sociétés agricoles. Alors, comment les choses se sont-elles passées? On parle de révolution néolithique, mais révolution, c'est un terme d'historien, bien entendu. C'est quelque chose de construit a posteriori. C'est vrai que le passage de la chasse immémoriale à l'agriculture a constitué dans l'histoire humaine un changement brutal, une révolution. Mais dans la réalité, les choses ont été très lentes, bien entendu. Ce sont de très lentes évolutions. Alors, comment les choses se sont-elles produites? Au Proche-Orient, entre 12 000 et 10 000 avant notre ère, il y a des chasseurs qui commencent à se sédentariser, c'est-à-dire qui vivent dans des villages stables. À la mobilité qui caractérisait les civilisations de chasseurs jusque-là, eh bien, elles commencent à opposer notre style de vie. Elles se sédentarisent dans, vous le voyez, des habitats qui sont des maisons, des petits villages, de petits hameaux, de maisons circulaires, dont vous voyez ici, dans deux cas, les infrastructures. Ce site, c'est le site de Malaha. En même temps, ces chasseurs qui deviennent des chasseurs sédentaires, des chasseurs-cueilleurs sédentaires, n'est-ce pas, inventent la nécropole. C'est-à-dire, non seulement ces gens se sédentarisent, mais en même temps, ils conservent leur mort près d'eux, soit dans l'habitat lui-même, soit dans un cimetière qui se trouve à proximité. Donc, vous voyez, sédentarisation et conservation à proximité des ancêtres, si l'on veut dire. En même temps, à cette époque-là, le chien est domestique. À une époque un peu plus récente, en gros entre 10 000 et 8700 avant notre ère, on assiste à ce qu'on appelle le premier néolithique pré-céramique. C'est-à-dire ce néolithique ne connaît pas la poterie. C'est le néolithique pré-céramique. Alors là, on est dans une phase qu'on appelle le néolithique pré-céramique A, c'est-à-dire la première phase. Ces premiers hameaux qu'on a vus, qui s'étaient installés d'ailleurs le long du couloir levantin, c'est-à-dire le long de l'axe du Jourdain et de l'Euphrate moyen, ces villages vont s'étaler dans l'espace et aller pratiquement de la vallée du Jourdain jusqu'à la haute Mésopotamie et jusqu'au Zagros, c'est-à-dire jusqu'aux montagnes de l'Irak et de l'Iran. À cette époque-là, donc, il y a toujours des maisons circulaires, comme vous le voyez, qui sont souvent des maisons en fosse, et parfois, comme vous le voyez également sur l'écran, vous avez des bâtiments qui sont des bâtiments qui n'ont pas une fonction, je dirais, de maison, une fonction individuelle ou familiale, mais qui sont souvent des bâtiments collectifs, découpés, comme vous le voyez, et on pense qu'il s'agit de silos à usage collectif, c'est-à-dire de silos valables pour toute la communauté. À ce moment-là, l'agriculture apparaît, on commence à cultiver le blé et l'orge, mais ce sont des populations qui restent toujours des populations de chasseurs. chasseurs au niveau de l'acquisition de la viande. Autrement, ce sont des agriculteurs, mais qui restent chasseurs pour le volet carné de leur alimentation. Et alors, ces populations commencent à construire ce que nous appelons des sortes de bâtiments publics, on peut les appeler comme ça. Ces bâtiments, en effet, sont des éléments qui donnent plus de cohésion, plus de cohérence à ces communautés. Alors, parmi ces bâtiments publics, j'en cite deux exemples. D'une part, à Jéricho, la tour de Jéricho, vous avez, qui est accolée à un rempart, qui n'est pas une tour de protection. Elle a 9 mètres de haut, probablement était-elle plus haute à l'origine. Était-ce un temple, était-ce une tour de guet, on ne sait pas trop, en réalité. Cette tour comporte un escalier intérieur. Elle date d'environ 9000 avant notre ère. Donc, ces premières populations d'agriculteurs, encore chasseurs, si l'on peut dire. Et je prends un second exemple, ce sont les bâtiments que nos collègues allemands ont mis au jour en Turquie, à Göbekli, dans la partie sud-est, en quelque sorte, du plateau anatolien. Ce sont toujours des bâtiments circulaires, mais ils présentent la particularité d'avoir des stèles sculptées sur la périphérie, englobées dans leur mur périphérique, et puis ensuite de grandes stèles dans leur partie centrale. Ces stèles sont très originales, elles sont sculptées et représentent des animaux, ça peut être des lions, ça peut être des fauves, ça peut être des renards, des sangliers, des scorpions, toujours d'ailleurs des bêtes dangereuses. Entre 8700 et 7000 avant notre ère, vous voyez, nous avons commencé à 12000 et nous évoluons dans le temps. On passe à la seconde phase de ce néolithique pré-céramique, c'est-à-dire qui ne connaît pas encore la poterie. C'est le néolithique pré-céramique B, et au cours de cette phase, les maisons deviennent maintenant rectangulaires. Les maisons individuelles sont rectangulaires. Vous voyez qu'elles peuvent conserver un grand bâtiment circulaire qui, lui, n'est pas un bâtiment individuel, familial, mais un bâtiment collectif. Et partout ailleurs, on a des infrastructures de maisons rectangulaires, soit construites en pierre, soit construites en terre à bâtir. À cette époque-là, entre 8007 et 8000, disons, les animaux sont domestiqués, essentiellement le mouton, la chèvre, le bœuf et le porc. Et ces populations sont déjà, à ce moment-là, pleinement néolithiques. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître les premiers grands villages. Des villages qui peuvent avoir couvrir jusqu'à 10 hectares, vous voyez, comme c'est le cas d'Abu Huraira sur le Frate en Syrie, ou comme c'est le cas en Jordanie d'Ain Ghazza. Alors, ces populations d'agriculteurs, et cette fois également d'éleveurs, sont obligés de s'adapter, bien entendu, aux contraintes de l'environnement. Dans les régions arrosées, vous voyez, elles arrivent jusqu'en Anatolie et même à Chypre, dans les régions arrosées, elles pratiquent à la fois l'agriculture et l'élevage. Dans les régions qui sont plus arides, n'est-ce pas, il y a du pastoralisme, autrement dit, on ne fait que de l'élevage. Et puis, dans certaines régions, encore, on continue de chasser, pêcher, etc. Mais toute cette grande culture, qui est la culture du néolithique pré-céramique B, cette culture est unique pour toute cette région. Et d'ailleurs, cette uniformité de la culture, elle est matérialisée dans l'industrie lithique, dans l'industrie de la pierre, mais également par des éléments qui circulent très largement et qui irriguent pratiquement toute cette zone. Alors, parmi ces éléments qui circulent, on peut avoir des pièces, des objets qui sont des objets, je dirais, très investis, souvent qui n'ont pas de fonction pratique, mais qui sont liés au prestige, n'est-ce pas ? Comme par exemple de l'obsidienne, des lamelles d'obsidienne qui souvent n'ont pas de fonction pratique, qui sont taillées, qui viennent de Cappadoce et qui, comme ça, irriguent ces diverses populations. Des bracelets de marbre, des vases de pierre, puisqu'à cette époque-là, il n'y a toujours pas de poterie et on ne fait que des vases de pierre. Donc, en quelque sorte, on assiste à une ample circulation de matériaux ou de pièces surinvesties auprès de certaines populations. Alors, on peut penser que déjà, il pouvait y avoir une forme de hiérarchisation sociale qui se met en place. Autrement dit, voyez, à peine ces populations ont-elles franchi le seuil de l'agriculture que déjà des formes d'inégalité apparaissent. En équipe, pour gérer ces gros villages, il y a des gros villages, il y en a de moyens, il y en a de petits. Pour gérer ces gros villages, qui sont en même temps des zones de, comment vous dire, des places de redistribution de ces pièces de prestige, il y a probablement des personnages en vue, des familles qui gèrent en quelque sorte ces localités-là. Alors, on arrive à la fin maintenant du néolithique, aux alentours de 7000, la céramique apparaît, et en même temps, cette grande communauté du néolithique pré-céramique B que vous avez vu sur la carte il y a un instant, se disloque. Elles se disloquent et apparaissent des sortes de cultures beaucoup plus restreintes. Alors la poterie apparaît d'abord sur le Frat et sur la côte de Turquie, du Sud-Est, du Liban et de Syrie. Un peu plus tard, c'est le cas ici, dans la zone sud, dans la zone d'Israël, avec le Yarmoukien. Et vous voyez, on a déjà des villages importants avec des rues centrales, des maisons avec divers quartiers disposés de chaque côté. Ici, le village de Charagola, en Israël. Alors, je reviens sur ces questions de différences sociales qui se manifestent déjà dès les débuts du néolithique. En effet, on a des localités importantes qui sont probablement gérées par des personnages en vue. On peut penser aussi, vous avez vu ces bâtiments comme la tour de Jéricho ou comme les bâtiments cultuels de Gödöllői, on peut penser que pour gérer ces bâtiments communautaires, qui sont probablement déjà des sortes de sanctuaires, il y avait en quelque sorte des autorités, mais des autorités de caractère religieux aussi, qui possédant les connaissances de l'histoire de la communauté, etc., pouvaient exercer une sorte de pouvoir, je dirais, intellectuel sur leurs semblables. Mais si on essaie, par l'archéologie, de voir quels étaient en quelque sorte ces personnages importants, si on essaie de les retrouver, on a des difficultés. On a des difficultés parce que souvent, on assiste à ce moment-là à les morts peuvent être regroupés dans des tombes collectives. Vous avez là, par exemple, une tombe de Çayönü, en Turquie, où vous avez 300 sujets, plus de 300 sujets qui se trouvaient enterrés. Alors là, faire la différence, en quelque sorte, entre des sujets qui occupent le devant, en quelque sorte, de la... qui occupent une position sociale importante, et d'autres sujets de moindre intérêt au niveau de leur position, c'est très difficile. Mais de temps en temps, on a des nuances, des indices qui nous montrent l'existence de sujets importants. Alors là, vous en avez un, probablement, c'est un sujet qui a été enterré à Tel Aloula, et puis il a, c'est pas, une sorte de pendentif en cuivre, parce que je vous rappelle que si on le connaît, là on est au PPN2B, on est vers 7500 avant. Si on ne connaît pas encore au Proche-Orient la céramique, on connaît déjà les premières tentatives de pyrotechnie et le travail du métal. Donc, ce monsieur ne connaissait pas la céramique, mais on l'avait gratifié de pendentifs en cuivre, et comme les premiers objets de cuivre étaient encore évidemment très très rares, on peut penser qu'il occupait une position sociale importante. Vous voyez comment, en quelque sorte, nous fonctionnons. Il faut savoir qu'à cette époque aussi, on dispose d'un certain nombre de crânes qui ont été extraits de certaines sépultures et qui ont été badigeonnés. Et on pense que ces ancêtres qu'on est allé extraire de leurs caveaux pour leur redonner un visage humain, en quelque sorte, puisqu'on les badigeonne de plâtre et on fait réapparaître les yeux, le nez, etc. Probablement, s'agissait-il de leur vivant, de personnages importants, et on est allé chercher ces ancêtres parce qu'ils pouvaient avoir, pour les vivants encore, quelques aspects bénéfiques dans leur quotidien. Voilà en gros, et alors vous avez également ici quelques-uns des premiers objets de cuivre connus au Proche-Orient dans le courant du 8e millénaire avant notre ère. Alors, comment, voilà en gros, donc 5 millénaires de 12 000 jusqu'à 7 000 pour que ces civilisations arrivent en quelque sorte à leur terme, pour que le néolithique soit pleinement installé, autrement dit, pour que ces populations d'agriculteurs soient arrivées à leur entière, en quelque sorte, efficacité d'un point de vue économique, reléguant progressivement la chasse à un rôle tout à fait mineur. Alors, comment ces populations ont-elles diffusé à travers l'espace méditerranéen? La première île la plus proche du continent, c'est Chypre, bien entendu. Chypre est en contact avec le Proche-Orient pratiquement dès 10 000 avant notre ère. Et à Chypre, vers 9 000 avant notre ère, on voit apparaître des populations qui sont à l'image de ce qui se passe au Proche-Orient au cours du néolithique pré-céramique A, sont des populations de chasseurs encore et déjà d'agriculteurs. Alors, je vous ai mis ici un grand bâtiment qui fait 10 mètres de diamètre, que j'ai moi-même d'ailleurs excavé et fouillé avec mon équipe à Chypre. Et ce bâtiment était enterré. Ces bâtiments et ces maisons, toujours à cette époque, sont souvent en fosse, n'est-ce pas ? Enterrés, conservés sur un mètre de profondeur, et vous avez sur sa périphérie les restes d'un mur. Vous avez un tronçon ici, il y en a un autre tronçon ici, etc., qui était plaqué contre la partie la plus profonde de ce volume en creux, si l'on peut dire, ce volume circulaire en creux. Et ce bâtiment était probablement un bâtiment cérémoniel. Ça n'était pas évidemment une maison ordinaire. Les maisons ordinaires sur ce site, nous les fouillons, elles sont évidemment beaucoup plus restreintes. Alors, à Chypre, donc, on voit arriver des agriculteurs qui cultivent du blé, de l'amidonier, et qui sont encore des chasseurs. Alors, ils chassent, vous avez ici toute une série de pointes de flèches de ces populations vers 9000 avant notre ère, et ils chassent quoi ? Ils chassent un sanglier qui a été introduit, c'est-à-dire une espèce sauvage, mais qui n'est pas autochtone à Chypre, c'est-à-dire qui a été introduit par l'homme lui-même. Vous voyez, autrement dit, ces gens-là introduisent du Proche-Orient des espèces qu'ils chassent pendant un certain temps. Bien. Ces maisons circulaires, alors Chypre, c'est un cas particulier dans l'archéologie néolithique, c'est un concept à prendre. Parce que alors que les maisons, vous avez vu, sont devenues rectangulaires au cours de la deuxième phase du pré-céramique sur le continent, ici à Chypre, ce sont des maisons circulaires qui vont durer pratiquement pendant tout le néolithique. Alors au début, on construit des maisons, vous avez ici des reconstitutions, qui sont en bois, en branchage, avec application de torchis. Vous avez en même temps de grands enclos qui sont construits, parce que, aux environs de 8500-9000, on introduit depuis le Proche-Orient les premières espèces domestiques, c'est-à-dire le bœuf, le porc, le mouton et la chèvre. Et ces maisons, à Chypre, resteront pratiquement identiques, circulaires, sauf que, ensuite, à partir de 8000, elles seront en pierre, comme c'est le cas ici, sur le village de Kirokitia, qui est un peu plus récent, aux alentours de 7000 avant notre ère, et vous avez ici une reconstitution actuelle de ces maisons. Donc, vous voyez, nous, quand nous parlons de maisons, nous, archéologues, nous n'avons évidemment que les substructions de ces maisons, mais nous pouvons évidemment ensuite les reconstituer, et voilà un peu l'aspect qu'avaient ces maisons, dont vous ne voyez ici que les assises intérieures, bien entendu. Alors, à Chypre, donc, ces agriculteurs s'installent à partir de 9000. Ils sont d'abord agriculteurs simplement et chasseurs, puis ils deviennent agriculteurs et éleveurs. Alors, ils introduisent, je dis, des espèces domestiques, mais pas seulement des espèces alimentaires, c'est-à-dire le mouton, le bœuf, la chèvre, etc. Ils introduisent aussi le chien, mais également le chat. Alors, le chat, il a été probablement domestiqué au Proche-Orient, mais ce sont nos propres gisements, moi je fouille à Chypre depuis 25 ans, ce sont nos propres gisements à Chypre qui ont montré que cette domestication était probablement ancienne au Proche-Orient, mais on n'a pas les documents au Proche-Orient, on les a par contre à Chypre. Alors, on a pu fouiller une sépulture avec un personnage en accroupi, avec des dépôts ici, dans une fosse, et ici, vous avez le squelette d'un chat, vous avez ici une sorte de reconstitution de cette sépulture. Et vous avez ici une tête de chat qui a été trouvée également sur le même gisement, qui a été sculptée par l'un des néolithiques de Chypre à ce moment-là. Cette sépulture que nous avons publiée dans Science est probablement la plus ancienne trace au monde de domestication du chat, puisque le maître a été enterré avec son animal. Vous voyez que la domestication n'est pas un phénomène, en quelque sorte, c'est un phénomène qui montre bien la puissance de l'homme sur l'animal, puisque dans ce cas-là, l'animal a été probablement sacrifié lorsque l'homme est décédé. Alors, à partir de Chypre et à partir du Proche-Orient, petit à petit, ces premières civilisations agricoles vont se déplacer à travers l'espace méditerranéen, c'est-à-dire l'espace égéen d'abord, et puis l'espace de la Méditerranée occidentale ensuite. Un mot enfin pour vous dire qu'à Chypre, ces premiers néolithiques, Chypre a toujours manqué d'eau, et encore aujourd'hui il manque d'eau, c'est une île où il y a très peu d'eau. Et donc les néolithiques se sont déjà trouvés devant ce problème. Alors ils ont creusé des puits. Ils ont creusé des puits qui descendent jusqu'à 11, 10, 12 mètres de profondeur pour aller chercher l'eau des nappes phréatiques, pour boire évidemment cette eau et puis évidemment pour en nourrir leurs troupeaux. Donc, à partir du Proche-Orient, ce néolithique va diffuser à travers toute la Méditerranée occidentale. Sur cette carte, vous avez la zone de formation des premières civilisations paysannes. Vous avez ensuite, alors, entre 9000 et 7000, je viens de vous dire, de vous écrire, vous avez ensuite la zone, n'est-ce pas, de l'Anatolie et de l'Égée, où ce néolithique est un peu plus récent, se constitue entre 7000 et 6000. Et ensuite, la zone de la Méditerranée occidentale, où le néolithique apparaît ici vers moins 6000, et il arrivera au Portugal aux environs de 5500 avant notre ère. Donc, en gros, pour franchir la Méditerranée, 1500 ans. Donc, vous voyez, il a fallu plusieurs générations pour que ces paysans partis du Proche-Orient arrivent, évidemment, jusqu'en Occident. J'attire votre attention sur un point. Regardez l'arrivée du néolithique en Occident. Autour de 5008, dans notre région, ici, et dans l'Espagne méditerranéenne, c'est-à-dire à peu près à la même époque qu'en Égypte. Alors vous voyez, la bizarrerie de l'Égypte, c'est que l'Égypte se trouve aux portes du Proche-Orient, mais elle a refusé pendant longtemps le néolithique. Elle a continué de vivre selon un système économique qui était un système économique de chasseurs. Pendant que ce néolithique diffusé est arrivé ici, c'est à ce moment-là que les portes de la vallée du Nil se sont ouvertes à l'agriculture. Et puis alors l'Égypte est allée très vite ensuite, puisqu'elle est devenue le premier état de la planète. C'est un cas de figure où vous avez une sorte de retard historique qui se transforme ensuite très rapidement en une avancée absolument extraordinaire. J'y reviendrai dans un moment. Alors comment ce néolithique a-t-il migré à travers la Méditerranée ? Ben, écoutez, sur le détail, c'est pas toujours facile à voir. Et d'abord, vous allez me dire pourquoi ces néolithiques sont partis du Proche-Orient. Parce qu'avec l'agriculture, la pression démographique a joué petit à petit avec la sédentarisation. Donc, il y a eu souvent des phénomènes de scission. Un village trop gros ne peut pas être bien géré, on n'a pas assez de terres pour nourrir les habitants, donc le village se fragmente et d'autres comptoirs, d'autres localités sont évidemment fondées ailleurs. Il peut y avoir d'autres raisons. Certaines dépendent qu'une cause climatique, par exemple, a pu jouer à un certain moment donné, que l'érosion des sols a pu jouer aussi, autrement dit, que toute une série de facteurs ont pu intervenir dans cette diffusion progressive à travers la Méditerranée. Là, je vous ai pris deux exemples en Égée. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, dans les Cyclades, où l'on retrouve déjà, avant le néolithique, aux environs de 8000 ans avant notre ère, des populations qui se sont installées, qui ont des maisons qui devaient être circulaires, un peu comme à Chypre et au Proche-Orient, et qui déjà ont introduit, c'est un peu le même problème qu'à Chypre, une sorte de suidée qu'ils ont chassée. Et dans un autre site, la grotte du Cyclope, à Lura, c'est une sporade, c'est un peu dans la partie nord de la mer Égée, vous avez déjà des caprins, n'est-ce pas, dont on ne sait pas s'ils sont domestiques ou sauvages, et qui sont là, n'est-ce pas, associés à des populations de chasseurs-pêcheurs. Donc, prémisse du néolithique, on ne sait pas trop. Mais le vrai néolithique, en réalité, il s'est transmis essentiellement, à travers l'Anatolie et à travers cet arc occidental, et peut-être aussi à travers les Cyclades, parce qu'il n'y a pas beaucoup de néolithiques dans les Cyclades. Alors, on va voir en effet que un certain nombre de documents que l'on trouve ici se retrouvent plus ou moins dans la zone égéenne. C'est donc que l'Anatolie a commandé, d'une certaine façon, la néolithisation du monde égéen. Alors, autre chose, c'est que lorsque ce premier néolithique se constitue ici, sous l'influence du Proche-Orient, il a à ce moment-là la céramique. C'est-à-dire que si le premier néolithique ici ne connaissait pas la céramique, à partir de là et jusqu'en Occident, la céramique sera présente dans les ensembles néolithiques. Alors, voilà par exemple les premières céramiques que l'on connaît en Anatolie, les céramiques à Fonro, et les premières céramiques que l'on connaît dans le néolithique de l'Égée. Voilà d'autres éléments, par exemple, anatoliens et qui passent en Grèce. Par exemple, ce qu'on appelle les pintadères, c'est-à-dire des seaux, pas, qui pouvaient être des éléments, qui est des sortes de tampons noirs pour décorer les vêtements. qui pouvaient être des seaux également pour se grimer. Et des figurines d'argile très fréquentes en Anatolie, très fréquentes également en Égée. En Égée, d'ailleurs, dans le nord de la Grèce, en Thessalie, les néolithiques, les premiers agriculteurs, s'implantent très rapidement avec de très nombreux villages, n'est-ce pas, qui sont des villages de cultivateurs de blé, d'orge, mais aussi de légumineuses qui ont été domestiquées au Proche-Orient, c'est-à-dire la lentille, le pois, la fève, pas, qui accompagnent, en quelque sorte, cette diffusion progressive vers l'ouest des premiers agriculteurs. Évidemment, aussi des éleveurs, donc, de caprins, de porcs et de bœufs. Et on va progressivement ainsi passer de ce monde, n'est-ce pas, égéen, à la Méditerranée occidentale, avec ici, vous avez écrit impresa, ici cardia, ici des cultures néolithiques avec poterie, qui sont des poteries à impression, d'où le terme italien impresa. Et ici, toujours des céramiques à impression, vous voyez, toute la zone en rouge, mais avec des impressions faites à la coquille de cardium, n'est-ce pas ? Et on appelle ça la céramique à l'écorce cardiale, d'où le terme cardial que vous avez ici. Alors, voilà par exemple les céramiques, les premières céramiques néolithiques de toute la zone de l'Adriatique, de l'Italie du Sud. Alors, ce site, je vous en... Il est important, ce site, c'est le site de Sidari. Sidari se trouve... Sidari se trouve ici, à Corfou. C'est dans cette zone, probablement, qu'on abandonne les céramiques à parois lisses que vous avez dit tout à l'heure, pour, en quelque sorte, les remplacer par les céramiques à des corps d'impression, que vous avez vu également. Autrement dit, la genèse de ce premier néolithique à céramique imprimée de toute la Méditerranée de l'Ouest, il se trouve ici à Corfou, et avec mon équipe, j'ai pu l'étudier notamment sur ce site de Sidari, qui avait été étudié anciennement, mais dont j'ai repris l'étude avec toute une série de datations radiocarbone, n'est-ce pas, plus d'une manière plus moderne, disons. Alors, une fois arrivé en Italie du Sud, ces premiers paysans s'installent, mais, si vous voulez, ils prennent des caractères différents de ce qui était au Proche-Orient. Par exemple, ils prennent l'habitude, ce qui n'était pas le cas au Proche-Orient, de cercler leur village par de grands fossés. On a des villages qui peuvent avoir 100, 200 mètres de diamètre à peu près, avec des maisons à l'intérieur, et qui sont cerclés par des fossés, qui sont des fossés... On dit que c'est des fossés de protection. C'est pas, ça peut être des fossés de protection, mais ça peut être aussi des fossés qui pouvaient avoir un caractère symbolique, c'est-à-dire la délimitation, en quelque sorte, de la zone habitée. Et souvent, même à l'intérieur de ces grands fossés, il y a de petits fossés, comme vous voyez ici, n'est-ce pas, de petits fossés qui ont une vingtaine ou une trentaine de mètres de diamètre et qui entourent la zone qui était habitée à l'origine. Il peut y avoir déjà de grands enclos, des grands enclos de pierre qui servent à parquer les animaux, signe que l'élevage jouait un rôle important, évidemment, dans l'économie et dans le capital, en quelque sorte, de la communauté. Et petit à petit, ainsi, ces gens, partis, qui s'installent ici en Italie du Sud, vont d'une manière, dans un premier temps, d'une manière très sélective, d'une façon pionnière, si l'on peut dire, créer des sortes de comptoirs à travers tout l'Occident. Vous voyez ? Alors, ici, en Sicile occidentale, ici, dans toute la région de la Ligurie et de la Toscane, dans le milieu de la France et en Espagne. Là, je vous ai mis quelques sites, il y en a davantage. Ce sont des sites côtiers, des sites de marins, qui possèdent déjà l'agriculture et l'élevage, et qui vont explorer des terres occidentales et y importer ces nouvelles connaissances, ces nouvelles recettes économiques. Et voilà par exemple deux vases, l'un de Ligurie, l'un du Languedoc, qui ont été trouvés dans ces sites. Alors la question qui se pose, lorsque vous voyez la carte précédente, c'est que dans toutes ces régions, ces gens-là ne sont pas arrivés dans un milieu qui était un milieu désert, bien entendu. Il y avait des populations qui vivaient là. C'était des populations de chasseurs-cueilleurs, qui vivaient dans un climat tempéré. C'était des chasseurs de sangliers, de cerfs, de chevreuils, c'était des pêcheurs, des gens qui se nourrissaient au niveau végétal de feuilles, de baies, de fruits, etc. Eux arrivent avec l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire avec un système économique beaucoup plus performant, bien entendu. Mais alors, le problème qui se pose aux archéologues, est-ce que ces deux systèmes complètement différents, l'agriculture d'un côté, la chasse, ont cohabité? Est-ce que les indigènes ont adopté facilement l'économie nouvelle? Est-ce qu'ils se sont fondus dans les nouvelles populations qui venaient de l'extérieur? Ça, c'est un vieux débat de l'archéologie, et je dirais on n'en est pas sorti. D'autant que ce qui est très difficile, c'est que ces populations indigènes chasseurs-cueilleurs, on en connaît, on a beaucoup de sites, mais ces sites sont souvent plus anciens que les premiers sites que vous avez, par exemple, figurés ici. Vous voyez? Alors, cette espèce de face-à-face, il a dû exister, mais nous avons du mal, évidemment, à le cerner d'un point de vue purement archéologique. Alors, voilà, par exemple, l'outillage de ces dernières populations de chasseurs-cueilleurs, pas avec des sortes de couteaux, des pièces de silex en coche pour rémurer le bois, rémurer, travailler l'os, etc., des sortes d'armatures de chasse. Ce qui est intéressant, c'est que ces populations de chasseurs-cueilleurs, évidemment, ont des parures, des ornements. Ces parures sont en coquillage. Et ce sont souvent des colombelles, des cônes, des coquillages marins. Et on verra que les néolithiques, les premiers agriculteurs qui arrivent, ont également ce même type de parure. On peut donc penser qu'il y a quand même un héritage, une osmose qui a pu se produire entre derniers chasseurs autochtones et premiers intrus, en quelque sorte, néolithiques. Alors, ces néolithiques s'installent dans cette région. Je vous ai dit qu'on les appelle dans la partie la plus occidentale de la Méditerranée, les néolithiques à décoration, à céramique cardiale. Et vous avez donc ce type de céramique. Ces deux sont des céramiques venant d'Espagne, de la région de Valencia. Ça, c'est une céramique du Gard. Vous voyez, ces décors ont été faits par impression de coquillage sur la pâte encore fraîche avant d'être mis au four, évidemment, avant d'être chauffée. Et ces populations, donc, c'est des populations d'agriculteurs. Mais en même temps, elles s'installent. Excusez-moi. Voilà. Elles ont également un outillage en os, comme des spatules, comme des cuillers, bien entendu. Elles ont, ce sont toujours des populations préhistoriques, elles ont des silex, et en particulier, ces grandes lames de silex qui sont des lames de faucille, c'est-à-dire qui servaient à couper, évidemment, les épis de blé ou d'orge, le temps de la moisson venu. En même temps, ces populations sont des populations de pasteurs. C'est-à-dire que dans les régions... Elles cultivent dans les régions sélectivement choisies, en quelque sorte, vous voyez, où l'on pouvait cultiver, mais là où on ne pouvait pas cultiver, elles pratiquaient le pastoralisme. Et ça, c'est un site de l'Aude où j'ai fouillé dans le courant des années 70, l'abri de Font-Juvénat à Villegagnac, et vous avez ici un grand abri, et là, sur 7 mètres de puissance, vous avez toute une série d'occupations néolithiques qui commencent à la base avec le néolithique ancien. Et c'était un abri de berger où périodiquement les bergers venaient s'abriter lors de remues de troupeaux qu'ils occasionnaient, n'est-ce pas? Voilà, donc on peut dire que pratiquement aux alentours de 5500 avant notre ère, toute la Méditerranée est à présent néolithisée, c'est-à-dire elle est devenue un espace d'agriculteurs. Ces gens du caviar, on les retrouve aussi au Maroc, mais vous voyez que dans mon exposé, je ne vous ai pas parlé de l'Afrique du Nord. Alors l'Afrique du Nord, pour nous, c'est un gros problème, parce qu'en dehors du Maroc, où les recherches vont leur train, dans toute la zone qui va de la Libye pratiquement jusqu'à l'Algérie, pour des raisons économiques, politiques, etc., les données sont tellement faibles que nous ne pouvons pas avoir un schéma explicatif comme celui que je viens de vous présenter.